Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute le deuxième épisode de FLPA, Faire le plein amour, proposé par Les Menstruels, un collectif de correspondance à voix multiples qu'on diffuse dans Gymnastique Sonore. Loin des histoires à l'eau de rose, des contes de fées et des comédies romantiques, c'est ici une sélection sonore, toute subjective et sensible, qu'on écoute et qui nous parle de notre rapport à l'intime.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, tisiole, substantif,
qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine
de. Les filles
de
sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Vitres qui.
L'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
des gamins
de la procédure normale et
lycée. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Un beau matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait de la constitution et de leur manière
il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement de
De l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un
sont des troubles menstruels fréquents.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Les menstruels présentent Faire le plein d'amour, une série d'interviews concoctées par Margot Séon.
24 octobre 2023. Il est exactement 17h09. Je m'appelle Jérôme, 50 ans, pile poil.
Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Après j'ai vécu avec ma mère en région parisienne. J'ai pas eu d'éducation sexuelle quand j'étais petit. J'ai découvert ça tout seul, en fait, comme un grand. Voilà, j'ai pas de souvenirs d'éducation sexuelle ou d'éducation à l'amour. Enfin, après, l'amour, il y a plein d'amours différents, hein, mais non, j'ai pas eu ça quand j'étais petit, je crois pas, non. Vers 14-15 ans, j'ai eu mes premières érections, etc. Et je me souviens bien qu'un jour, j'étais chez ma mère, mon premier orgasme, pour être tout à fait clair. Je me souviens, c'était en pleine nuit, je me suis réveillé avec le pénis dur comme jamais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Et voilà, c'était ma première expérience orgasmique, on va dire. Voilà, c'était dans la salle de bain, ouais. c'était assez étrange, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je n'en ai pas parlé à personne, et après, voilà, après j'ai continué ma vie sexuelle, comme ça. La première femme que j'ai embrassée, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, je crois, et avec qui j'ai fait l'amour. Ouais, et ouais, c'était un moment totalement improbable, incroyable, enfin, une sorte de, je sais pas comment dire, de rencontre avec soi-même et avec l'autre, c'est ça que j'aime bien dans l'amour. Enfin, on va différencier l'amour physique, enfin, entre deux êtres humains, entre deux êtres adultes, et l'amour filial qui est quand même autre chose. Parce que mes enfants, je les aime, mais j'aime pas mes enfants comme j'aime ma femme, évidemment. Enfin, y a plusieurs types d'amour, enfin, tu vois, on peut pas mettre tout ça dans le même panier, quoi. Oui, c'était un moment incroyable. Ouais. J'étais en colonie de vacances. C'était une rencontre improbable. Quand tu touches l'indivisible, je ne sais pas comment dire, le truc, tu étais à 17, 18 ans et tu te dis, tu vois la personne et tu dis, mais c'est elle, c'est moi. Et tu découvres tout ça, quoi, ce moment un peu improbable et incroyable où tu as tous tes sens qui sont en éveil à 2000%. Et quand tu sens qu'il y a un truc unique qui te marque toute ta vie, qui m'a marqué toute ma vie, ma première vraie rencontre amoureuse, enfin concrète, on va dire, elle m'a marqué toute ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. En colo, on était chacun animateur de la colo, quoi. On avait tous les deux le BAFA, et bah après voilà, quoi. Après c'est tu vois la personne, tu sens que il y a une sorte de lien qui se fait, et tu sens ton corps qui se transforme, et que je sais pas comment dire, une sorte d'alchimie en fait de l'amour qui fait que bah. Et là, t'es comme ça, tu trembles, tu vas vers elle et tu l'embrasses. Et là, t'as ton cerveau qui explose, quoi. Qui explose de bonheur, qui explose de joie, qui explose de sentiments. Et t'as ton cœur qui bat à 120 BPM. Et tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc de malade, quoi. En fait, à l'époque, c'était dans les années 80, fin des années 80, quoi. Mais surtout, on n'avait pas de téléphone portable. Et on a eu une correspondance écrite par la poste, quoi. Mais de malade, quoi. On s'échangeait des lettres, quasiment pas tous les jours, mais toutes les semaines. On s'écrivait en lettres manuscrites, des lettres pour dire « J'ai adoré, je t'aime, tu me manques, etc. 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 » Enfin, moi, c'était un moment de ma vie qui était vraiment incroyable, sur la découverte de l'amour, sur la découverte de la relation à l'autre. Tu vois, le truc où tu es plus seul, mais tu es avec quelqu'un, et tu te rends compte que tu peux construire des choses ensemble, avoir des projets, des machins, etc. Au-delà de l'aspect sexuel, hein, qui est important, évidemment, mais le truc que tu te dis, ben, je suis plus un gars tout seul dans un coin, je suis avec quelqu'un, et on construit un truc, et on échange, et on se construit ensemble. C'est ça que j'ai adoré dans cette construction amoureuse, sur mes premières rencontres amoureuses, où t'as un soleil qui apparaît, tu te dis putain, c'est quoi ce délire, quoi.
Je m'appelle Jenny, j'ai 37 ans, je vis à Marseille. On est le 17 octobre, je crois. Je pense que ça a vraiment merdé pour le coup, donc c'est pas un super modèle. Pas dommage, mais ça s'est pas très bien présenté parce que ça n'a pas été très équilibré. Donc en fait, c'est surtout mon père qui a eu beaucoup d'histoires et d'aventures, et ma mère qui en a un peu chié, je pense. Après, je viens d'une famille où ça, je pense, c'est une grande chance. C'est que je viens d'une famille où il y a plein de manières d'aimer. En tout cas, aujourd'hui, je me dis que ça fait partie de ce qui aussi m'a constitué, c'est-à-dire que j'ai quand même eu la chance qu'on me dise qu'on pouvait aimer qui on voulait. Le discours était très ouvert et très officiel, et dans les faits, et c'est peut-être, on y viendra un peu plus tard, mais dans les faits, en fait, moi j'ai vu beaucoup de rapports de force, et pas forcément des relations qui épanouissaient. Je crois que c'est une question aussi qui m'a toujours préoccupée, parce que justement il y avait cet écart, et qu'à la fois j'aimais beaucoup ce qu'on me racontait et que je le retrouvais pas dans la réalité de ce que je voyais autour de moi, dans le paysage, quoi. Il y a d'autres figures d'adultes qui ont beaucoup compté pour moi, et notamment mon oncle, qui lui inventait des formes de relations qui me semblaient beaucoup plus souhaitables ou beaucoup plus désirables, et notamment et avec des hommes et avec des femmes, et ça j'aimais bien. Je trouvais ça beau, quoi. Et après, j'ai rencontré un grand, grand amour de ma vie d'adulte, avec qui j'ai passé 10 ans, qui pour moi est la plus grande histoire que j'ai vécue aussi en temps, puis en intensité. On s'est rencontrés par un ami commun. Moi, je vivais encore en région parisienne. Enfin, là, je vivais à Paris même. Donc, c'est le moment où je bossais dans les bars. J'avais pas trop d'intention de, de me poser. J'aimais bien la vie un peu sauvage. Et un de mes très bons amis, un de mes amis d'enfance, est arrivé avec ce mec-là. Et je me souviens que je me suis dit, ouf, il est dangereux, lui. Mais à cette époque, je me disais, il est dangereux pour cette vie de sauvage que je mène. Donc voilà, puis on a passé une soirée à beaucoup, beaucoup discuter, et je pense qu'on a été dans des moments de nos vies où on avait envie de construire des projets similaires, où on s'est trouvé vraiment avec beaucoup de choses à se dire en fait. Lui était avec quelqu'un, moi j'avais un peu ce principe de peut-être un peu moraliste, mais peut-être d'où je venais aussi, tu vois, que c'est bien quand chacun prend ses responsabilités et on fait pas trop des trucs dans le dos des autres. Voilà. Ce que j'ai posé assez vite, il a quitté cette personne et on s'est mis ensemble. On a vécu vraiment plein d'aventures. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment fait confiance à quelqu'un. Je pense que j'ai jamais été aussi amoureuse aussi. Et que, au point quand même que je, même au bout de 10 ans, ça, enfin, pas au bout de 10 ans parce que c'était déjà compliqué, mais vraiment je pensais que toute la vie, tu vois, la vraie histoire, enfin, vraie avec des grands guillemets, mais l'histoire qui allait durer toujours, quoi. Pas exactement ce qui s'est passé. Il est aussi un peu plus âgé, mais... Je crois qu'on a été très à égalité pendant longtemps, un peu moins après, peut-être parce qu'on a changé. Mais j'ai vraiment rencontré un alter ego. Et en même temps, sur la fin, je crois que se sont présentées des questions analogues de rapport à... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, moi, j'y crois pas trop, cette histoire d'appartenance. D'ailleurs, je me suis promis depuis que je le dirai plus mon... Je ne dis plus, tu vois, même si c'est mon amant, c'est l'homme que je vois, l'homme que je relationne, je ne veux plus utiliser le prénom possessif, je le trouve problématique. En fait, je pense que ce qui s'est passé vraiment dans cette histoire, c'est venu se buter contre la question de la parentalité. À partir du moment où moi, ça a été très clair que j'avais le désir... de faire des enfants avec lui, et d'autres questions sont arrivées, et notamment sur une indépendance qu'on avait jusqu'à présent. On était vraiment un couple, hein. Enfin, pas... on vivait ensemble, on a construit nos projets ensemble, mais moi j'étais quand même un peu en itinérance, lui se sédentarisait de plus en plus, et donc on a commencé à se demander comment on pourrait être parents comme ça, et ça a vraiment cristallisé quelque chose. Et en fait, moi, ça me demandait de... Enfin, je crois qu'il me demandait d'arrêter de bouger. Ce qui, dans une certaine mesure, me paraissait nécessaire. Et dans une autre, me semblait un peu radical. Parce qu'en fait, mon métier se fait en mouvement. Et que je voyais pas comment... Enfin, déjà, j'ai aucune intention de choisir entre le fait de faire mon métier et devenir mère. Et voilà, je pense que c'est là où cette question de la... Parce que je réduis un peu sur la possessivité, mais c'était un peu genre, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries et on se pose à la maison, quoi. Et ce qui m'a fait me dire merde. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de faire un gamin. Moi, je me suis pris plein de trucs dans la tronche en mode waouh, ok. Et du coup, ça m'a permis de dire en fait, il faut qu'il y ait des trucs qui bougent, sinon ça va pas être ok. Comme ça, un mec qui a un caractère un peu de cow-boy, et il m'a dit bah, si ça te va pas, va-t'en. Et je suis partie. Le côté difficile, ça a été de se dire waouh, ce que j'avais imaginé, en fait, ça n'arrivera pas. Et pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce qu'on n'y arrive pas. Okay. Donc, ça, c'était en fait, mine de rien, pas si simple. Mais par contre, je pense que maintenant, et ça, je peux le dire, je commence à pouvoir le dire. En fait, je pense que ça a permis de casser encore un tas de schémas que j'avais dans la tête. De, justement, par exemple, de cet amour romantique Et du coup, en vrai, j'ai fait un gros repli, moi, sur moi. J'ai accepté d'être triste, pas bien. J'ai trouvé beaucoup de ressources autour de moi, quand même. Ça a été ça, c'est un chouette truc sur l'amour aussi. Que maintenant, je pense que l'amour prend plein de formes. Mes amis, fondamentalement, incroyablement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais vraiment en ours blessé chez moi et que les copines se relayaient pour « Salut, je suis en bas », tu vois, de manière hyper fine. Et ouais, j'ai été à la fois... j'avais besoin de solitude, mais en fait, j'ai été très entourée dans ma solitude. Avec notamment beaucoup d'amis femmes, mais pas que. Et ouais, mes amis m'ont vraiment, je crois, inondé d'amour, en fait. Donc ça a changé beaucoup de choses aussi. J'avais déjà des belles amitiés, mais je pense que ça m'a permis de le mesurer encore, encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui m'aimaient et qui m'aimaient comme j'étais et qui avaient envie de m'accompagner sur ce qui était important pour moi et qui étaient capables de me dire aussi quand je yoyotais et quand il fallait que je sorte un peu de chez moi et qu'il se passe des trucs, mais... Ouais, j'ai l'impression que ça m'a fait mesurer à quel point, en fait, de l'amour, il y en avait dans plein d'autres relations que la relation de couple. Et du coup, ça m'a donné envie d'inventer d'autres modes de rapport aussi. Pas forcément... Ouais, pendant ces 10 ans, même si j'ai fait plein de choses et que je vivais plein d'histoires collectives, amoureuses au sens amical, en fait, mon noyau, c'était cette relation. C'était mon noyau au sens vraiment, tu vois, atomique, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que mon noyau, il était beaucoup plus... que c'était une constellation. Et j'aime bien cette idée-là, que c'est important en fait de cultiver aussi d'autres manières d'aimer qui ne sont pas que conditionnées par le fait d'avoir une sexualité ou pas avec la personne que t'aimes, par exemple. Et en vrai, je crois que décider que cette grande histoire se termine, ça a été un vrai choix d'amour. Alors maintenant, je relationne avec un homme... Tout est nouveau. Je pense que ce qui a fonctionné, c'est que c'était tellement impossible pour moi de remettre les pieds dans un schéma tel que j'avais essayé de les construire, que du coup, il y a eu tout à inventer, il y a encore tout à inventer. Et en fait, c'est, je pense, une relation qui se construit sur un mode beaucoup plus amical, même si on fait l'amour. Et je trouve ça assez heureux. Du coup, ça demande à déconstruire pas mal de choses, notamment de pas trop déconsidérer aussi ce mode de rapport, de pas se dire que c'est pas un vrai amour parce que c'est pas un amour passionnel. Mais en fait, je pense là, à ce moment-là dans ma vie, vraiment du sens. Parce que justement, cette question de... Enfin, tu vois, je te fais la blague sur l'homme avec qui je relationne, mais en fait, c'est une blague qu'on a en commun. C'est-à-dire, et c'est un effort qu'on fait tous les deux. Et il nous plaît bien à faire cet effort. Pas forcément en se disant qu'on veut absolument avoir d'autres aventures autour, mais juste se dire, en fait, on va prendre soin de ce qui se lie entre nous et ça ne nous détermine pas en tant qu'entité. On reste deux personnes très, très distinctes, en fait. On parle vachement. Ça, c'est un truc qui est précieux. C'est pour ça que je dis, peut-être un peu bêtement, mais tu vois, ce côté, ça se construit beaucoup plus sur une amitié. En fait, c'est quelqu'un avec qui on a très vite échangé. Et donc, on était plutôt amants et amis. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça fait quand même un petit moment qu'on est amis et amants. Peut-être que... En fait, on se disait ça. On s'est dit, bon, on est amis, amants. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, on est amis, amants, amour. Et ce que ça m'apporte, c'est justement de ne pas faire de séparation bête. Entre... Du coup, il y a moins de devoirs dans ma tête, tu vois, de devoir être quelque part. Si t'es l'amoureuse de... C'est peut-être que moi, hein, mais en tout cas, ça, moi, ça me libère de ça. Ouais, on se marre bien. C'est quelqu'un avec qui on joue pas mal, de différentes manières, mais il y a vraiment cette question du jeu, et donc de pas prendre pour acquis. Je crois que c'est vraiment ce truc de « on s'est rien promis ». Et comme on s'est rien promis, c'est vraiment le lien qui nous fait du bien, qui donne le là de cette relation. Et je crois que le jour où ça nous fait pas du bien, ou plus du bien, bah ce sera pas un drame. Tu vois, il y a une espèce d'accord de deux adultes consentants, et avec beaucoup de tendresse, et voilà, et beaucoup de... En fait, beaucoup d'amour aussi. Pareil, pour moi, on joue beaucoup aussi dans la sexualité. Je pense que... Et on rit beaucoup. Enfin, tu vois, il y a cette... aussi, là, de dédramatiser. C'est aussi... Il y a un truc qui s'est passé très tôt dans le moment où on est devenus amants, où il m'avait rejoint, et où, tu vois, c'est un truc où, bah, si tu rejoins quelqu'un deux jours, il y a un peu peut-être cette... espèce d'injonction de « faut quand même qu'on couche ensemble ». Il a fait je sais pas combien de kilomètres. Et où en fait, c'était pas du tout le moment pour moi. J'étais à milieu de ça, quoi. Et en fait, ça s'est dit hyper simplement. Et je pense que ça, ça a ouvert une porte qu'on continue de nourrir, tu vois. De se dire que en fait, tant que c'est du jeu et tant qu'il y a du désir, c'est OK. Et qu'en fait, c'est pas une obligation. En fait, on peut aussi passer des moments où on ne couche pas ensemble. Et qu'il existe cette possibilité-là sans culpabilité ou, tu vois, ou sans pression aussi, là, bah, en fait, ça fait que, du coup, on fait plutôt l'amour assez souvent. Parce que c'est, en tout cas, pour moi, c'est un endroit où je ne me sens pas contrainte. Et je trouve qu'en tant que femme, ce n'est pas si simple à déconstruire cette chose-là. De pas se sentir, de pas se dire « Allez, je vais faire un petit effort, faut que je sois sympa. » C'est lui qui gère la contraception. Il a un anneau. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Non, mais en vrai... En fait, c'est un autre endroit où je me dis « Ah, c'est cool que ça bouge un peu, que ça tourne un peu, et peut-être que, je sais pas, tu vois, ce que sera... » ce que sera l'avenir de cette relation, mais peut-être qu'à un moment donné, ça rechangera. Je veux dire, c'est pas... Mais je me suis dit, déjà, il se sent concerné par comment cette question, elle peut intruser les corps des femmes, la question des hormones, qu'est-ce qui peut être fait pour parler les mecs. C'est déjà un endroit un peu de réflexion un peu plus loin que... Voilà, que ce que j'avais pu partager avec d'autres hommes. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est un endroit aussi de liberté pour moi. Dire, ouais, j'ai pas ce truc-là à gérer. Ça fait du bien aussi dans la sexualité, quoi.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou. Ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. c'est moi qui l'ai redit avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais la 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 la, c'est sûr que la 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 la, mon amour. Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui disais mon amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour.
Loïc, et j'ai 35 ans. On n'en parlait pas tellement, non? Je crois que de temps en temps, ma mère devait me dire « Ah, si tu couches avec des filles, il faut mettre des capotes. » Voilà, ça a dû s'arrêter là. Et de toute façon, j'avais pas grand-chose à dire parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans l'amour et encore plus longtemps dans la sexualité. Donc, je tombe très vite amoureux. C'est que l'été arrive, tu me dis « Je vais vivre un amour de vacances, un amour de voyage. » C'est toujours... Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas un été qui se passe sans qu'il y ait au moins l'illusion, même si ça arrive souvent jamais, tu as au moins l'espoir que tu es un amour de voyage. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. C'était pas cet été, mais l'été d'avant, tu vois, il y a 2 ans. J'étais toujours avec ma copine hein, et je rencontre une fille que je me dis, tiens, elle est quand même très très belle cette fille. Et on discute un peu, mais bon, il ne se passe rien. Et je sais que j'ai pu, une semaine après, il y avait une soirée où je... pensais qu'elle allait être là aussi, et je me dis merde, ça va être compliqué parce que ma copine sera là aussi, donc ça va être compliqué. Et il se trouve que ma copine s'en va. Au moment où l'autre arrive, je me dis merde, fais chier. Donc bon, l'autre arrive, on discute. Et puis bon, après quelques verres, après des discussions, machin, on finit par s'embrasser. Et donc je lui dis écoute, ça pourra pas aller plus loin parce que j'ai une copine, donc voilà. Et là, elle me dit « Ah, merde, dommage. Mais écoute, je te propose un truc. On n'a qu'à partir à Venise 3 jours, comme une petite bulle hors du temps. » Donc là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que j'arrive pas à refuser ce genre de proposition. Tu vois, je me dis « Bon, ça, quelqu'un qui me propose de partir 2 jours, 3 jours à Venise comme une bulle hors du temps, je me dis « Bon, on ne va pas me le proposer 2 fois dans ma vie. » Et comme je ne crois pas en Dieu, je me dis « Merde, si ça ne m'arrive pas dans cette vie, ça ne m'arrivera pas dans l'autre là non plus. Donc, c'est ma seule chance de vivre ça. » Donc, évidemment, je dis oui. Je dis oui. Et puis, dès le lendemain, je me dis « Merde, bon, ça va se faire. J'ai envie que ça se fasse. » Mais voilà, ça me fait peur. Quoi, parce que, bon, en plus, avec ma copine, c'est OK. On a le droit de faire quelques écarts, mais peut-être pas 3 jours à Venise. Bon, c'était pas forcément dans le contrat. Enfin, en tout cas, j'en sais rien et je pose pas la question. Donc, on échange avec cette fille et puis, finalement, on arrive à caler des dates. Et on part pas à Venise, bon, on part quand même en Sicile, 3 jours. Donc, je l'avais pas revue depuis, on s'est juste échangé quelques textos. On se retrouve pour prendre le bus, après prendre l'avion et d'un coup, on se retrouve en Sicile avec cette fille que j'avais vue qu'une heure dans ma vie, un peu bourré. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et on se retrouve en Sicile, à se promener dans les rues, et on passe 3 jours à boire du Prosecco et à prendre du LSD dans la mer. Et ça a été 3 jours... Ouais, 3 jours assez fous. Je me suis dit, bon, quand même, c'est incroyable. C'était une petite bulle hors du temps. Le problème, c'est que j'ai jamais osé draguer sans avoir bu de l'alcool. D'ailleurs, j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai vu dans des festivals faire l'amour avec quelqu'un qui a bu, c'est pas du consentement. Je me suis dit, là, je suis mal barré. J'ai jamais fait l'amour à jeun. Et jamais fait l'amour avec une fille à jeun non plus. Mais ça s'est toujours très bien passé. Le lendemain, voilà, ça va, hein, y a pas de problème. Et puis on n'est pas non plus, je veux dire, on arrive à articuler quand même. Quoique des fois, c'est une limite, mais jamais, j'oserais, je ne saurais pas comment faire. Sinon, j'ai tellement peur d'être lourd, en fait, que je ferme carrément la... Tu vois, je pense que je n'ai même pas l'air d'avoir envie. Parce que j'ai peur d'être chiant, tu vois. Ah si, on s'est déjà dragué après par message, mais après quand tu te retrouves, bah tu bois des verres, tu vois. Une fois ça m'est arrivé, justement, une fille comme ça, on s'est dragouillé par message, et on se dit, bah retrouve-nous, buvons un verre, donc là, ah oui, on arrive, je dis, qu'est-ce que tu bois? Elle me dit un coca, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Alors, j'étais perdu. Alors moi j'avais pris une pinte, mais je me suis dit, coca, mais j'ai jamais osé l'embrasser. Alors qu'en plus on s'était retrouvé, je pense qu'elle avait très envie, et moi aussi. Mais j'étais paniqué, je me suis dit, mais je vais jamais oser l'embrasser comme ça à jeun. Et en plus, il y a un problème, c'est que la fille n'ose pas trop non plus. Ça m'est arrivé une fois, mais justement, j'étais hyper fermé, j'ai paniqué, et du coup, ça c'était drôle, ça. Ouais, bah, encore une mésaventure. Ça, c'était très drôle, c'était un stage de théâtre encore. Et je sais pas, il y avait une espèce d'exercice, donc personne ne se connaissait, c'était le premier jour. Espèce d'exercice, le prof dit « Bon, maintenant, vous allez fermer les yeux, marcher dans la salle, et puis vous pensez à quelqu'un dans la salle, et vous rouvrez les yeux, vous le regardez. » Et là, paf, je ferme les yeux, je pense à cette fille, parce que je l'avais vue 5 minutes avant, je me dis « Elle est assez jolie. » On ferme les yeux, et là, bam, on se regarde. Putain, c'est beau. Donc forcément, il y a un petit truc qui se passe, quoi. Après, fin de journée, on va avoir un peu des coups avec les gens, et puis moi, je dis « Bon, ben, je rentre dans mon appartement. » Et puis, une heure après, elle m'appelle, je ne sais pas comment elle trouve mon numéro. Et elle me dit, ouais, t'es où? Je te retrouve. Oh! Je me dis, waouh, incroyable. Donc là, je suis paniqué, je pense que je vais boire un verre. Et je lui dis, retrouve-moi au bar, elle me retrouve. Et on discute, on commence à boire des verres. Et puis, bon, au bout d'un moment, je comprends qu'elle se fait un peu chier, quoi. Elle me dit, bon, on pourrait peut-être aller dans ton appart. Je dis, ah bah ouais, d'accord, très bien. Donc on va à l'appart, et puis on parle, et puis au bout d'un moment, elle me fait vraiment sentir qu'elle se fait chier, quand elle en a marre qu'on parle, quoi. Et je sais pas quoi faire, je suis paniqué. Donc je crois que je lui dis, écoute, je vais t'avouer la vérité, moi je suis pas du tout, tu vois, j'ai peu de relations, je suis paniqué. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc elle me dit, ah bah écoute, de la musique, on va danser. Elle met de la musique, on danse. On danse un peu, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, alors j'essaye de l'embrasser. Et là, elle tourne la tête. Je comprends plus rien. Non, je lui dis, écoute, je comprends plus, là. Et elle me dit, bah, les envies sexuelles, c'est comme ça, ça va, ça vient. Je dis, ah, merde. Bah oui, bah, je comprends, ça va, ça vient, oui, t'as raison. Donc, je sais plus trop ce qui se passe, on se rassoit, on reboit des verres et tout, et puis finalement, je sais pas, on finit par, finalement, s'embrasser, longtemps après, et puis... Et coucher ensemble, et c'était très sympa. Mais c'est vrai que ça a été très long à se mettre en place, et je sentais qu'elle avait envie qu'on s'embrasse, et je ne sais pas ce que je foutais. Je sais pas pourquoi elle s'est pas jetée sur moi. Peut-être que j'étais dans un truc, justement, où j'étais trop paniqué, donc je montrais un état de panique. Ah, je ne sais pas comment faire. Mais je ne sais toujours pas comment faire. Ouais. Même avec ma copine, on a mis... elle, c'était pareil. On a dû mettre un mois avant d'arriver à s'embrasser à jeun. Au début, à chaque fois qu'on se voyait, on était timide, machin. Et puis au bout d'un mois, on a dit, bon, on pourrait peut-être maintenant. Donc maintenant, ça va. 6 ans de relation, on arrive maintenant à s'embrasser à jeun. C'est agréable.
On est le 14 octobre 2023. On est le 15 octobre 2023.
On est le 18 octobre.
Clara, 26 ans.
Noémie, 27 ans.
Inès, 29 ans. Moi, la sexualité, on n'en parlait pas. Après, je suis issue d'une famille musulmane, d'origine algérienne. Mais je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y avait non plus un tabou. C'est plus comme si ça avait été... une évidence depuis toute petite, c'était quelque chose dont on parlait pas. Et je pense pas avoir par exemple demandé à mes parents comment on fait des bébés par exemple. Je crois que je suis pas du tout passée par cette case-là. La seule personne qui m'a un peu parlé de sexualité, ça a été ma grand-mère maternelle. Et je me rappelle qu'elle m'avait montré du front
jusque le bas du ventre. Elle m'avait dit « De là à là, tu peux. » Mais par contre, du nombril jusqu'au pied, tu attends. Mais ouais, deuxième année de fac, bah à ce moment-là, j'étais en couple avec une personne trans qui était en train de transitionner en tant que femme. Et je voulais que mes amis la rencontrent, même si c'était pas une personne ouf, genre. Mais du coup, je leur ai dit, et voilà. Mais c'est passé normal.
Mais moi, tu me l'as jamais dit directement. C'est quand je suis venue habiter chez toi, quand tu m'as hébergée à Paris.
Je t'ai pas dit quoi, qu'elle était
Tu me l'avais jamais dit. Non, mais j'avais rien.
Oh, wow, wow.
On s'était jamais rien de trop parlé. C'est via Nono qui m'actualisait un peu. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est, je trouve à ce moment-là que j'ai pu accéder un peu plus à toi et à ton intimité. Et où je trouve que c'est à ce moment-là où on a vraiment pu beaucoup plus se rejoindre. Et notre relation, elle s'est beaucoup plus approfondie à ce moment-là, je trouve. Et c'était vraiment chouette.
J'étais sûre de te l'avoir dit.
Et puis maintenant, depuis, on est vraiment, genre, toutes les trois, on a vraiment ce trio-là de soutien émotionnel ou quoi que ce soit, n'importe quel sujet. On a un peu nos propres références, toutes les trois, avec notre groupe WhatsApp. Et c'est toi aussi qui me gère mes Tinder, mes rendez-vous, mes phrases à dire, mes photos, mes trucs. Donc c'est drôle, je trouve.
Savage bitches.
Voilà.
Waouh.
Moi, en tout cas, il y a vraiment un truc que je trouve intéressant, c'est l'amour et l'amitié et le fait que... Genre, tu sais, je suis là, genre, putain, en vrai, notre relation la plus longue, c'est toi et moi, enfin, ouais. Tu sais. Et pourtant, on est toutes là, genre, pour s'entraider dans l'amour. Et pourtant, ce qui nous lie, c'est aussi notre amour amical. Et je trouve ça, en tout cas, je trouve ça vraiment très beau, ce truc de se dire que moi, dans toute ma sexualité, dans toutes mes aventures, c'est toujours lié au fait... Moi, j'ai beaucoup besoin de parler avec mes amis dès qu'il m'arrive quoi que ce soit en amour ou dans ma sexualité. Et que ce soit dans l'acceptation de ma pansexualité ou de ma bisexualité, ça a toujours été genre mes amis qui ont été là aussi pour me soutenir, et pas forcément ma famille, parce que c'était un contexte qui était plus compliqué à accepter. Et que ce soit toi Inès, ou toi Nono, ou encore une autre amie qui s'appelle Louise, qui m'a toujours dit, ben, s'il n'y a pas ta famille pour demander le prénom de ton amoureuse, mais nous on te le demandera en fait. Et le principe de les familles reconstruites, c'est les familles que tu choisis, c'est les potes avec qui tu t'entoures, c'est celles qui sont là pour toi quand ta famille elle l'est pas forcément, ou quand tu te sens seule par rapport à ça. Bref,
mais c'est un truc.
Bah ouais. Okay. Mais c'est pas facile, mais en fait au moins c'est tout ce que, enfin, genre je le chéris très fort en tout cas. Mais moi j'étais 2 ans à Montréal. Je suis arrivée à Montréal en étant avec un mec que je venais de rencontrer en relation libre parce que j'avais pas forcément envie de m'engager dans une relation directement monogame avec lui, quelque chose de très engageant. J'ai un peu du mal avec ça, ça me fait peur, l'engagement, je pense. Et premier jour de travail où j'arrive à Montréal et je rencontre quelqu'un à mon travail, une collègue. J'ai un flash direct sur elle. Je me dis, ok, elle. Et dans ce contexte de relation libre, bah, je commence à être très très attirée par elle. Et à côté de ça, quand je rentre à la maison, ça devient vraiment un peu violent. Il me fait payer sa jalousie qu'il a du mal à gérer. Il me fait payer ses traumas d'enfance. Je sens que plus j'en apprends sur lui, en apprenant à le connaître, plus ça devient problématique. Et en fait, je décide de me choisir et de me sauver. Et en même temps, j'entame une relation très douce avec cette collègue, et qui est hyper apaisante. Il y a une dynamique vraiment très différente entre elle et les relations avec les hommes que j'ai pu avoir avant. Ouais, beaucoup, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins dans la bataille quotidienne. Donc je me sens bien et on reste 2 ans de mon visa au Canada ensemble. Sauf que je me sens plus très bien mentalement. Ma santé mentale va pas très bien avec Montréal, la distance avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis. Et donc je décide de rentrer et de partir et d'être seule parce que je veux pas avoir cette responsabilité-là d'avoir quelqu'un qui change totalement de vie pour moi, qui déménage à l'autre bout de l'océan, alors que moi-même, là, je dois me reconstruire encore une fois dans mon pays sans savoir vraiment ce que je veux faire, tout ça. Donc on essaie d'alimenter une relation à distance, mais je me vois pas en couple monogame, donc on est en train de gérer ça ensemble, en fait. On est en train de voir comment on arrive à trouver une quelque chose de stable, parce que c'est une personne qui compte pour moi, parce que je compte pour elle, parce qu'on a vécu des choses, tout en se disant que c'est trop compliqué, avec 6 heures de décalage à l'autre bout de l'océan, avec des billets d'avion extrêmement chers, en se disant que ouais, c'est pas concevable une relation de couple traditionnelle et monogame et tout ça. Et donc plutôt se dire que ouais, c'est une personne qui reste dans mon cœur et qu'on continue à avancer chacune dans notre chemin. Et on verra quand on arrivera à se voir comment est notre relation. Mais voilà, donc je suis arrivée dans ce contexte-là avec Nono et Inès là-dedans, et ça fait beaucoup de remises en question sur ma personne. Est-ce que ça fait moi quelqu'un de mauvais de me choisir et d'abandonner une personne qui m'aime et que j'aime? Est-ce que je me jette dans l'inconnu? Est-ce que c'est une erreur? Et en même temps, écouter mes propres besoins, ma propre personne, et des fois me retrouver en tant qu'entité et pas personne dans un couple depuis 2 ans, ça me fait quand même du bien. Donc c'est tous ces questionnements-là en ce moment.
Alors, retournons 3 ans en arrière. Non, il y a 3 ans. Non, il y a 4 ans. Il y a 5 ans.
Il y a 4 ans.
Ouais. J'ai eu une rupture amoureuse qui m'a mise par terre. Je n'arrivais plus à me relever, je n'arrivais plus à marcher. Il y a 5 ans.
Il y a 5 ans.
Après ça, j'ai été en colocation à Montpellier avec Noémie pendant 1 an. Et je ne voulais pas me remettre en couple. Mais les amis, tu connais... Mets-toi sur Tinder, je me mets sur Tinder. Et je rencontre une meuf de Marseille. Et on commence à parler, etc. Ça se passe bien. On se rencontre en plein Covid. C'est moi qui vais jusque Marseille. Petite anecdote, je n'avais jamais couché avec une femme avant. Et la première fois que je la rencontre, on couche ensemble. Voilà, petite anecdote. Donc le week-end se passe bien. Et je sens qu'elle est plus investie que moi et elle en veut plus que moi. Et moi, j'étais vraiment dans l'optique de non, je ne me mettrai pas en couple parce que j'aime comme une petite mamie. Donc quand ça se finit, ça me casse, quoi. Et je mets trop de temps à recoller les morceaux. Et elle, j'ai rencontré 2 ans après ma rupture d'avant. Et je me rappelle de cette scène, genre 3 mois après, qui vraiment me prend le visage, me regarde dans les yeux et qui me dit « Tu peux me faire confiance. Genre, moi, c'est à vie et je ne t'abandonnerai pas. Parce que j'ai peur de l'abandon. » Voilà. Et ça, je lui avais dit, j'ai très très peur de l'abandon. Et elle m'avait dit, dans les yeux, « Je ne t'abandonnerai pas. Je suis la bonne, fais-moi confiance. » Et j'ai été bête parce que c'est une promesse qu'on ne peut pas faire. Mais j'y ai cru. Mais je sais que c'est impossible de... On ne peut pas promettre à quelqu'un, genre, « Je t'aimerai toute ma vie. » Mais bon. Donc je me dis, vas-y, on se met en couple. La date ne me convient pas parce qu'on se met en couple un 27 novembre et c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et je lui dis, putain, si tu me quittes un jour, je vais être en PLS tous les 27 novembre. Ça me fait chier. Elle insiste en me disant, ça n'arrivera jamais. On se met ensemble, on reste 1 an à distance parce que j'habite à Montpellier et elle à Marseille. Sauf que ça devient compliqué, on se dispute de plus en plus. Et elle me dit, faut que tu viennes vivre à Marseille. Parce que elle, il était pas possible pour elle de quitter Marseille, de quitter sa mère et ses grands-parents. Et je me dis, moi, en soi, à Montpellier, j'ai juste ma meilleure amie, mais je peux la voir quand je veux. Donc j'ai déménagé à Marseille. On a vécu ensemble 2 ans. On a vécu pas mal de choses, pas mal de voyages. Elle a rencontré ma famille, j'ai rencontré la sienne. Mais... En vrai, avec le recul, je me rends compte qu'il y a plein de limites qui ont été dépassées à trop de moments.
Par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'acceptation du passé, que ce soit le mien ou celui des autres. Et j'avais dit, ah, si t'es pote avec les meilleurs amis de ton ex, c'est chaud pour moi. Je peux pas. Et elle m'avait dit, non, t'inquiète, je fais le choix, je te choisis. Et ça a été des mensonges tout le long. Dès que je découvre que tu parles avec un tel et un tel tout le long. Et j'aurais dû partir, mais je suis restée, parce qu'encore une fois, j'aime comme une vieille mamie. Et que je me dis, mais par amour, on supporte tout. Par amour, on va au bout de tout. Que nenni. Donc il y a eu ça qui allait pas du tout. Et en fait, ça a accentué ma jalousie à chaque fois que je découvrais quelque chose. Et du coup, ça a débloqué ma folie. Mais vraiment, ma folie. Hein. J'en étais arrivée à un point où je lui disais, si t'as porté ce t-shirt avec ton ex, bah, je veux pas voir. Je veux pas que tu portes ce t-shirt. Et je devenais complètement folle. Et je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que... Elle me disait, mais t'es pas normale, Inès, genre c'est trop. Et je lui disais, mais tu me rends comme ça. Parce que depuis le début, je te dis qu'il y a des choses qui me heurtent et tu m'y confrontes à chaque fois. Et pour le moment, j'ai ni la force ni la maturité pour juste combattre mes démons et move on. Pour le moment, ce que je te demande, c'est de pas m'y confronter. Du coup, je suis devenue folle. Mais bon, je lui ai acheté des nouveaux vêtements après. En vrai, je me suis rattrapée. Donc voilà. Et il faut savoir que c'est quelqu'un d'anxieux. Elle a beaucoup d'anxiété, beaucoup de panique, beaucoup de toc. Beaucoup de... Ouais, c'est prise de tête, ça. Hein. Je sais pas si quelqu'un entendra ça un jour, mais... N'allez pas dans ce genre de situation si vous, vous n'êtes pas comme ça. C'est trop compliqué à gérer. Mais... Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très grande. Elle fait 1m80 et qui est mastoc en vrai. Et du coup, elle avait. Elle aimait pas son corps, elle aimait pas son physique. Et pendant les 3 ans de notre relation, elle a grossi. Donc c'était de pire en pire, mentalement parlant. Ce qui fait que, deuxième fun fact, sur les 3 ans de relation, ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas couché ensemble. Parce qu'elle était pas à l'aise avec son corps. Et moi, j'étais en mode, ben, je vais pas te forcer. Tu vois, quand tu seras mieux, ben, on le fera. Et plot twist très marrant, quand elle m'a quittée, elle m'a dit, mais je suis pas sûre qu'on soit sexuellement compatibles. Connasse. Genre, vraiment, hein. J'ai attendu 1 an et demi, j'ai rien fait. Je t'ai pas trompée, j'ai pas demandé à ouvrir le couple, j'ai rien fait. J'ai attendu comme une imbécile. Et tu me dis, je suis pas sûre qu'on est sexuellement compatibles. Bon, bref. Et la manière dont elle m'a quittée, c'est, je me rappelle, c'est un vendredi. Elle avait le toc des cheveux. Et notre salle de bain, elle était bouchée, parce qu'elle avait des cheveux qui allaient jusqu'aux fesses, là, et que ça avait bouché la salle de bain. Et je lui avais dit, genre, 2 jours avant, vas-y, cette fois-ci, tu le fais. Sauf que un jour, ça m'a pété, je me suis dit, non, vas-y, elle craint, je vais le faire. Donc, je le fais. Et le vendredi matin, justement, elle va se doucher et elle me dit rien. Je me dis, mais elle se prend pour qui? Elle me dit pas merci. Du coup, je vais la voir, je lui dis, bah, tu me dis pas merci. Genre. Elle me dit, bah, pourquoi? Je lui dis, bah, t'as pris ta douche, c'était bien, non? Et elle me dit, ah oui, merci. Mais je sais pas comment expliquer, j'ai vu dans son regard que... J'étais, mais il y avait un truc qui allait pas. Et je vais dans la chambre et mes larmes, elles ont commencé à couler. Et elle vient me voir, elle me dit, pourquoi tu pleures? Et je lui dis, parce que ça va pas. Mais... Nous deux, ça va pas. Et je sens que ça va pas et c'est et je comprends pas. Mais mon corps entier me disait, là, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et là, elle me dit, t'as raison, ça va pas. Elle me dit, je pense que tu ne m'aimes plus. Du coup, je lui dis, ah, tant, là, tu vas pas parler à ma place. Elle me dit, je t'aime, mais plus comme avant. Du coup, vraiment, j'ai eu un temps de, c'est normal, c'est logique. Et j'étais vraiment... Dans ma tête, elle n'était pas en train de me dire quelque chose de grave. Et elle me disait, oui, mais je t'aime plus comme au premier jour. Et je me disais, mais c'est normal ce que tu es en train de me dire. Et elle me dit, non, pour moi, c'est pas normal. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il y ait un truc qui te tord le ventre jusqu'à la fin de ta vie? Je dis, c'est pas possible d'aimer comme ça au bout d'un moment. Faut que ton corps, il s'apaise un peu. Et là... Je pense que j'ai ouvert la boîte de Pandore à ce moment-là, en vrai. Elle me dit, je suis pas bien dans mes anxiétés, je suis pas bien dans ma peau.
je suis perdue dans ma tête. Je sens que il faut que je fasse les choses pour moi, que je fasse des choses qui me fassent envie moi, et je veux les faire seule, et je veux penser qu'à moi. Et là, j'ai vraiment eu un truc hein, où je lui ai dit, attends. Je comprends ce que tu es en train de me dire. Ce temps-là, prends-le. Fais ce dont tu as besoin. Soigne-toi. Mais me sortir totalement de l'équation, ça ne fonctionne pas dans mon esprit. Et ce soir, je me dis, je ne comprends pas. Il y a une semaine, on se dispute pour un truc. Je vais t'acheter un bouquet de fleurs. En rentrant, je m'excuse avec les fleurs. Tu te mets à pleurer. Tu me prends dans tes bras. Tu me reparles de l'amour de ta vie et de toute une vie. Et maintenant, t'es juste paumé. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis pas en train de vivre juste une énième crise de panique, de j'ai trop de responsabilités au taf, mon corps, ça va pas, ma tête, ça va pas. Sa mère, à ce moment-là, ça allait pas ouf, et ses grands-parents non plus. Et où le seul truc qu'elle pouvait mettre de côté, c'était moi. J'en sais rien. Mais bon, bref. Du coup, ouais. Ce jour-là, elle part au travail, en me laissant dans cet état. Elle rentre du taf à 22h, alors qu'elle finissait pas à 22h. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je suis quand même face à quelqu'un qui m'a laissé dans une détresse émotionnelle toute une journée. Et qui rentre à 22h parce que ça lui convient de rentrer à 22h. Ce soir-là, parce qu'avant de partir au travail, elle me dit, on est encore ensemble. Le soir, elle me dit, je prends la décision, on n'est plus ensemble. Et là, je perds pied. Et je lui dis, mais de quoi t'as besoin? De quoi t'as besoin? Et elle me dit, j'ai besoin de 15 jours. Pour réfléchir et pour voir si j'ai fait une erreur. C'est un truc que j'ai jamais fait et je déteste l'attente. Je déteste qu'on me laisse dans cet état-là. Mais je lui dis, ok, vas-y. Je te laisse 15 jours. Pendant 15 jours, je pars de l'appart. Au final, ça a duré qu'une semaine. Mais en fait, c'était vraiment arrêt sonore. Si je lui écrivais, c'était ne m'écris pas. Si je l'appelais, c'était je veux pas que tu m'appelles. Il y a un soir où je l'ai appelée parce que je tenais plus et que ça allait pas. Et où elle me dit, en gros, que c'était le premier soir où elle arrivait à voir personne et à avoir rien à faire. Et que du coup, je venais de lui voler sa soirée tranquille puisque elle avait dû m'avoir au téléphone. Et à un moment, je me suis dit, la violence, oh. Mais bon, bref. Et quand elle me parlait, c'était de manière hyper administrative. Du genre, oui, absolument. J'ai bien reçu ton mail. Enfin, et j'étais en mode, attends. Enfin, on s'appelait pas par nos prénoms pendant 3 ans. Il est où ton absolument, là? Je suis pas... Elle est folle, celle-là. Et bon, bref. Donc ça a très mal à gérer la manière dont elle me parle, la distance qu'elle met... du coup, au final, au bout d'une semaine, elle me dit j'ai pris ma décision, j'ai pris la bonne décision, il y a une semaine, c'est terminé. Du coup, je dis ok. Ça, elle me le dit par message. Et elle me dit, tu veux qu'on en discute en vrai ou qu'on s'appelle? Et là, je lui dis, mais tu crois que j'ai le temps de revoir ta figure ou quoi, là, par contre? Genre, je vais pas encore perdre mon temps, mon énergie et mes larmes à te voir pour juste me dire j'ai pris la bonne décision. T'as pris la bonne décision, tu me le dis par message. Ciao Bella, au bout d'un moment. Du coup, je lui dis ok, vendredi, je viens chercher mes affaires et je déménage de l'appart et je te laisserai mes clés dans la boîte aux lettres. Elle me dit ok, y a pas de nouvelles entre temps. Et elle m'avait dit une phrase au moment où elle m'avait quitté, elle m'avait dit. Mais je garderai toujours une part de moi avec toi. Je garderai toujours une part de toi avec moi. Et toi, une part de moi avec toi. Moi, ça me gonfle, ces discours-là. Non, merci, en fait. Prends ce que t'as à prendre, rends-moi ce que t'as à me rendre, et puis continue ta vie. Surtout dans ces cas-là, en fait. Parce que vraiment, j'étais en mode, ok. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de... Juste, à un moment donné, j'étais en couple avec une meuf qui s'est réveillée paumée et qui m'a dit « Je suis perdue, j'ai besoin de penser à moi, basta. » Bah alors non, rends-moi ce que t'as à me rendre. Va te soigner, mais toute seule. Bon, bref. Du coup, on fait ce déménagement en 5 heures. Top chrono. Et je me suis... Et en vrai, ça m'a un peu perturbée de me dire que... On peut récupérer 3 ans de vie en 5 heures. C'est possible. C'est hallucinant. Y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ma manière de faire. Mais j'ai récupéré ce que j'avais payé. J'ai récupéré ce que j'avais payé pour elle. J'ai récupéré ce que ma mère avait payé pour elle. J'ai récupéré ce que sa mère avait payé pour moi. Et j'ai récupéré ce que elle avait payé pour moi. Et j'ai récupéré ce qu'on avait payé pour nous deux. Je ne lui ai laissé que ce qu'elle avait payé pour sa propre gueule. Tout le reste, je suis partie avec. Soit je les ai gardés, soit j'ai donné à Emmaüs. Et ça servira à d'autres personnes. Et en vrai, ça m'a fait du bien parce que je me suis quand même dit, tu te prends pour qui ? En vrai. Parce que je peux comprendre qu'on quitte quelqu'un parce qu'on l'aime plus. Je peux comprendre qu'on quitte quelqu'un parce qu'on est perdu. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que du jour au lendemain, on traite quelqu'un avec autant d'indifférence et autant de condescendance après 3 ans de vie commune, alors que cette personne ne t'a rien fait. Si je l'avais trompé, j'aurais compris. Si je l'avais insulté, j'aurais compris. Je sais pas, si elle avait fait un truc, j'aurais compris. Mais traiter quelqu'un de cette manière et aussi froidement et sans aucune émotion au final, juste parce que t'es paumé, ben non. Je suis désolée, pour moi, non. Il y a un truc qui passe pas.
Notre séance de gymnastique sonore hebdomadaire se termine ici. Vous avez entendu le 2e épisode de Faire le plein amour. Le 1er épisode, vous pouvez le trouver dans les archives de gymnastique sonore sur canalb.fr à la date du 9 novembre dernier. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.